enseignemoi.com.
Enseignemoi.com, le site numéro 1 d'enseignement chrétien.
Le site numéro 1 d'enseignement chrétien.
Enseignemoi.com.
Parce que son peuple périt, faute de connaissance.
Enseignemoi.
Toute la parole de Dieu, sans compromis.
Toute la parole de Dieu, sans compromis.
Faire de vous des vases d'honneur, les chrétiens de qualité, des hommes et des femmes épanouis dans tous les domaines de votre vie. Voici l'un des buts que la mission évangélique Vase d'honneur vise. À cet effet, des messages d'édification vous sont proposés afin de vous aider à évoluer dans votre vie et dans votre marche avec Jésus. Notre prière, que la parole de Dieu, source de vie, vous transforme et vous apporte la solution à votre problème.
Aujourd'hui, je vais parler aussi de la bénédiction au singulier, en parlant du mot « la bénédiction ». Je parlerai de cela. La Bible parle donc des bénédictions, parce que vous pouvez avoir une faveur manifestée dans votre vie, et puis dans un autre domaine de votre vie, vous n'avez pas du tout de faveur. Par exemple, il y a une des bénédictions qui dit « tu seras béni à ton départ » ou « tu seras béni à ton arrivée, tu seras béni à ton départ ». C'est la même chose, « tu seras béni à ton départ, tu seras béni à ton arrivée ». Cette faveur-là dit que tout ce que, quand Dieu prononce cette bénédiction dans ta vie, il dit, je te bénirai à ton départ, je te bénirai à ton arrivée, il est simplement en train de dire que, quand tu vas entamer quelque chose, commencer quelque chose, je serai avec toi. Et je mènerai ce projet-là jusqu'à la fin. C'est vraiment une faveur de Dieu. Amen. Parce que d'abord, il faut vraiment une grâce de Dieu pour pouvoir commencer des projets, pour pouvoir commencer des choses. C'est pas toujours évident. Tout le monde n'arrive pas à commencer. Et si dans ta vie, tu vois que le Seigneur t'a donné des idées, chaque fois pour entreprendre, chaque fois pour commencer quelque chose, c'est la grâce de Dieu. C'est une bénédiction. Amen. La grâce de commencer. Mais une chose est de commencer et une chose est d'amener cette chose-là jusqu'à la fin. Alors, cette bénédiction dit que tu seras béni à ton départ, tu seras béni à ton arrivée. Elle te dit que quand tu commenceras, Dieu sera avec toi et il va mener ce que tu commences jusqu'à terme. Il va l'amener jusqu'à la fin. Amen. Tu vois, tes entreprises donc sont bénies, tes produits sont bénis. Ce que tu commences est béni et tu es béni jusqu'à la fin. C'est une faveur de Dieu. Et beaucoup de personnes, sûrement, ont déjà ouvert cette porte dans leur vie. Ils sont bénis dans tout ce qu'ils commencent et ils arrivent à achever les choses qu'ils ont commencées. Mais on a rencontré souvent certaines de ces personnes qui, malgré qu'elles aient cette faveur-là, n'ont pas envers la bénédiction qui dit « je bénirai tes entrailles ». Vous allez voir par exemple des femmes ou des hommes, des chefs d'entreprise, généralement des femmes qui commencent des projets, qui les mènent jusqu'à terme, mais qui n'ont pas la bénédiction des entrailles. La porte des bénédictions des entrailles vous ouvre la faveur des mariages. Vous allez voir comme ça, elle a de l'argent, elle commence des choses, elle entreprend des projets, et par exemple, elle n'est pas mariée. Ses entrailles ne sont pas bénies ou bien elle est mariée, elle n'arrive pas à avoir d'enfants. Et malgré qu'elle ait de l'argent, elle est attristée, elle est angoissée, elle pleure parce qu'elle n'a pas la faveur du mariage. Quand les gens la verront, dit cette femme-là est bénie, elle va sourire, dit effectivement, Dieu m'a accordé des grâces, Dieu m'accorde des faveurs, mais malheureusement je pleure parce que je n'ai pas encore d'enfant ou bien je ne suis pas encore marié. Vous voyez? Et donc nous avons pu répertorier 12 bénédictions dont l'homme a besoin de manifester afin de voir sa joie parfaite. Alléluia. Donc janvier, nous avons étudié une, février, une, mars, avril, mai. Et à partir du mois de mai, nous avons abordé la porte des ennemis qui dit, ils verront contre toi par un chemin, ils s'enfuiront par 7 chemins. Nous allons donc dans le livre de Deutéronome, chapitre 28, pour lire la bénédiction de ce jour, la bénédiction de ce mois. Nous sommes donc à la porte d'Issacar. Je peux l'appeler aussi, c'est la porte de l'alliance. C'est la porte de l'alliance. Ça veut dire, Dieu promet de vous accorder la réussite dans tout ce que vous ferez. Amen. Il est dit au verset 8 de Deutéronome 28, l'Éternel ordonnera à la bénédiction d'être avec toi dans tes greniers et dans toutes tes entreprises. Il te bénira dans le pays que l'Éternel ton Dieu te donne. Amen. Donc l'Éternel ton Dieu ordonnera à la bénédiction d'être avec toi dans tes greniers et dans toutes tes entreprises. Il te bénira dans le pays que l'Éternel ton Dieu te donne. Alléluia. Vous avez dû remarquer sûrement que dans toutes les autres bénédictions qui sont citées, les 5 précédentes, il n'y a pas cette expression « je vais ordonner à la bénédiction ». Amen. On peut lire, il dit « tu seras béni dans la ville, tu seras béni dans les champs », c'est une bénédiction. « Le fruit des entrailles, le fruit de ton sol, tu seras béni. Ta corbeille, ta vie seront bénies, tu seras béni à ton arrivée, tu seras béni à ton départ. L'Éternel te donnera la victoire sur tes ennemis, ils s'enfuiront contre toi par un seul chemin, ils s'enfuiront devant toi par 7 chemins. » Et puis après, tout ça sont des bénédictions. Et au verset 8, il dit, j'ordonnerai à la bénédiction. Amen. Donc, il y a une bénédiction, on ne dit pas les, on dit la. la bénédiction. Alléluia. C'est une bénédiction donc particulièrement importante que je vais décrire maintenant. Il dit, je vais ordonner à la bénédiction d'être avec toi. Quand vous ouvrez cette porte, la bénédiction vous poursuit. La bénédiction vous suit. Elle est avec vous. Alléluia. Je vous disais la dernière fois, donc dimanche dernier, que il y a 12 portes. Il y a 12 clés. Ou bien 12 ensembles de clés. Mais il y a une clé qui ouvre toutes les portes à la fois. Amen. Ça s'appelle la clé de David. Amen. Alléluia. Aujourd'hui encore, je vais lui donner un autre thème. On va apprendre à provoquer Dieu. Mais pas provoquer Dieu en mal, hein. Voilà, parce que pas provoquer pour provoquer. Il y en a qui provoquent dangereusement. Pas provoquer la colère de Dieu. Provoquer la faveur de Dieu. Cette faveur-là où Dieu dit, j'ordonne à la bénédiction d'être avec toi. Ah, ça dit, tu marches, la bénédiction est avec toi. Alléluia. Cette bénédiction particulièrement est très liée avec ce que j'appelle la clé de David. Amen. Parce qu'elle parle de la faveur de Dieu qui est avec toi en toutes choses. La faveur de Dieu qui te garde. Cette faveur-là ne signifie pas que tu n'auras plus de problème. Amen. Elle ne signifie pas que tu passeras par des épreuves. Non, c'est pas ce qu'elle signifie. Il y en a, je crois, qui ont mal compris le principe des 12 bénédictions. Ils ont cru qu'en manifestant les 12 bénédictions, ils n'allaient plus jamais pleurer. On n'a jamais dit ça. Ils n'allaient plus avoir de problème. On n'a jamais dit ça. Alléluia. Alléluia. Non, c'est pas ce que la Bible dit. David a été béni, Joseph a été béni, les hommes ont été bénis, mais n'empêche qu'ils ont connu des difficultés, n'empêche qu'ils ont connu des problèmes. Amen. Mais la bénédiction dont je parle, qu'elle vient dans ta vie, elle t'accompagne. Et même quand tu tombes dans un trou, elle te fait constamment sortir du trou. C'est une parole que Dieu prononce dans ta vie qui t'accompagne partout. Alléluia. Elle ne s'ouvre pas facilement. Amen. Mais lorsque Dieu la prononce sur ta vie, elle te poursuit. Partout où tu vas, elle est avec toi. C'est une bénédiction qui te distingue. Il y a des hommes de Dieu qui ont pu la manifester. Par exemple, disons Genèse chapitre 39, verset 5. Il est question de Joseph qui avait la bénédiction dans sa vie. Genèse 39, verset 5. Il est dit, dès que Potiphar lui établit sur sa maison et sur tout ce qu'il possédait, l'Éternel bénit la maison de l'Égyptien à cause de Joseph. Et là, bénédiction de l'Éternel, c'est la bénédiction singulière. La bénédiction de l'Éternel fut sur tout ce qui lui appartenait, soit à la maison, soit au champ. Il y avait un jeune homme qui s'appelait Joseph. Il avait la bénédiction de l'Éternel avec lui. C'est de cela que nous parlons. Amen. Il avait la bénédiction de l'Éternel avec lui. Partout où il partait, cette bénédiction-là se manifestait dans tout ce qu'il touchait. Cela ne signifie pas que Joseph n'avait pas de problème. Amen. Ses frères ont voulu le tuer. Dans le puits où ils l'ont jeté, la bénédiction de Dieu était avec lui. Joseph, par cette bénédiction-là, est sorti du puits. Parce que quand il était chez Potiphar, la bénédiction de l'Éternel était avec lui. La faveur de Dieu a commencé à se manifester dans la maison de Potiphar. Quelqu'un qui a la bénédiction dans sa vie, cette faveur, dès qu'il arrive quelque part, tout est transformé positivement. Amen. Tu le mets dans ta boîte commence à bouger. Alléluia. Dans le monde encore, on peut leur dire, tu prends de chance. Amen. Dans la vie de Joseph. Il arrive chez Potiphar, toutes les affaires de Potiphar commencent à bouger. Cette bénédiction-là, lorsqu'elle est dans votre vie, ça ne veut pas dire que les ennemis ne viendront pas. Regardez Joseph, la bénédiction était là, mais il était dans un puits avant. La bénédiction était là, et puis Madame Potiphar, sirène des hommes, amie Wata Potiphar, alléluia, a menti sur lui. Joseph s'est retrouvé en prison. Mais le problème de la bénédiction qu'elle est dans ta vie, quand Dieu la prononce, c'est comme un ballon qu'on a gonflé. Quand tu mets le ballon dans l'eau, le ballon, il est calme, il est tranquille. Oui, naturellement, il flotte sur l'eau. Quand tu le prends, si tu l'enfonces un tout petit peu, il sort un tout petit peu. Plus tu l'amènes en profondeur, plus sa sortie est dangereuse. Alléluia! Ah! Amen! Quand cette bénédiction est dans votre vie, quand les ennemis viennent et puis ils vous enfoncent, il veut vous tuer. D'abord, il t'enfonce un tout petit peu. Tu le sors doucement comme ça. Et le diable dit, il dit quoi? Parce que je t'ai enfoncé un tout petit peu, cela, tu le sors comme ça. Attends, j'ai bien t'enfoncé même. Il rentre avec toi en profondeur. Plus il t'amène loin, plus la vitesse, l'énergie avec laquelle tu vas sortir. Alléluia!
Et le diable va s'arrêter. Il va voir que tu vas sortir, tu vas le dépasser comme ça. C'est ce qui était dans la vie de Joseph.
Alléluia. Ses frères sont venus. On dit on va le tuer. Il n'arrive pas à le tuer parce que la bénédiction avec lui. On le met dans un puits. C'était un petit trou. On essaie de l'enfoncer. Quand Joseph ressort, il arrive chez ton monsieur Potiphar. Amen. Donc, lorsqu'on l'a enfoncé dans le puits, Joseph est ressorti chez Potiphar. Petit enfoncement, il est sorti petit sous-chef de la maison de Potiphar. Satan dit, mais le gars là, il est dangereux. Il espie, il envoie Mami Wata, la sirène des eaux, pour céder Madame Potiphar. Elle commence à le séduire. Il dit, là, je vais le casser, finir. Zéro, plus jamais on parlera de Joseph. Joseph est accusé faussement par la femme d'un dignitaire. Un mauvais nom va rester sur lui. Elle dit que cet homme-là a essayé de me... Il a voulu abuser de moi. Dites-moi, une femme si respectable par rapport à un esclave, qui peut croire Joseph? On veut lui demander, elle dit, mais un jeune comme ça, j'ai fait quoi? Mon mari est là. Mais on ne peut même pas douter. Les gens de la maison de Potiphar ont dû commencer à parler. Il dit, Norbert, tu as pris la nouvelle? On dit quoi? Joseph, notre chef ici, dans la maison de Potiphar, celui que Potiphar avait nommé chef, tu as pris, c'est qu'il a fait? Il s'est dans la maison, il a tenté de violer la patronne. Ah! Il y a des gens qui sont mauvais. C'est ce qu'on disait de Joseph, mes amis. Vrai ou faux? Mais ils sont mauvais, hein? Toi, tu arrives, tu es esclave. Le monsieur te prend comme son propre fils. Il te confie tous ses biens. Et maintenant, c'est vers sa femme, tu t'en vas. Potiphar devait être déçu. Il y a des gens qui sont mauvais. Quand tu es arrivé, tu n'étais rien. Les gens t'ont vendu, on t'a amené enchaîné chez moi. Je t'ai tout confié dans cette maison. Joseph était devenu le chef de la maison. Il dit, Potiphar même ne contrôlait même pas ce qu'il tenait dans ses mains. Tout la comptabilité. Potiphar dit, le monsieur est honnête, il est gentil. On lui a donné tous les postes. Donc les gens ont dû commencer à parler. On dit, oui, esclave de Potiphar, tout le monde était habitué à lui, qui venait dans la ville, qui faisait les achats, celui qui gère ses prestations. Qu'est-ce qui s'est passé? Donc les gens ont dû peut-être commencer à accuser même les Hébreux. On dit les doux même. Hein? Ce sont les gars là, ce sont les Hébreux. Vraiment, ils sont mauvais, ces gens. On vous dit que les gars là sont mauvais. Comment quelqu'un, on te reconnaît comme ça, on te positionne et puis. Joseph appartient en prison avec un très mauvais nom, une très mauvaise réputation. Quand les gens gardent ton nom comme ça, et puis tu n'as aucun recours. Parce qu'il n'y avait même pas un témoin pour dire non. Monsieur Potiphar, lui là. Moi, je suivais tous les jours, je les ai attrapés. C'est ta femme qui venait le draguer. Le jeune, là, c'est en fuyant. Elle a attrapé son habit. Sinon, lui, il a refusé de coucher avec elle. Aucune personne. Personne. Il y a des fois, le diable vous enfonce et vous croyez qu'il n'y a plus d'issue. Là, vous voyez Satan en train d'enfoncer le ballon qui est Joseph dans les profondeurs de la mer. Il dit, là, je ne sais pas. Et ses frères l'ont mis dans un puits. Il a pu sortir. Il arrive en Égypte, il peut devenir chef ici. Là où je vais l'amener, dans une prison en Égypte avec tentative de viol de Madame Potiphar, un homme qui mange à la table du roi. Cette accusation là dans la prison, Joseph était là-bas. Mais là encore, la bénédiction, n'y avait pas la bénédiction. La bénédiction. Ah, je vous sens pas. La bénédiction. Voilà. La bénédiction de Dieu était avec lui. Amen. Même en prison, même dans la pénitence, le chef de la prison s'est rendu compte que lui, là, il y a une faveur dans sa vie. Joseph a été enfoncé dans les profondeurs. Satan, il dit, voilà, là, je l'ai bien lié. Ici, il ne peut plus sortir. Le temps que Satan comprenne quelque chose. Vous connaissez le ballon, non? Ballon. Un ballon gonflé dans l'eau. De là d'où il était, brusquement, subitement, sans avertissement, Joseph est sorti. Alléluia! Mais la hauteur qu'il a atteint cette fois-ci, ce n'était plus une affaire de la maison de Potiphar. Ah, est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur?
Le diable l'a enfoncé. Et vous savez, je sais que Satan est en train de faire des œuvres comme ça contre la vie de cette personne. Il n'y a plus personne pour te défendre. Tout le monde pense mal de toi. Laisse-moi te dire, si la bénédiction, Dieu t'a gonflé avec sa bénédiction, on ne peut pas te maintenir dans le tombeau. On ne peut pas. Les sorciers sont en train de dire beaucoup de choses, mais ils ne peuvent pas. Alléluia. Ils ne peuvent pas. Quand Joseph est sorti de l'eau, direction premier ministre en même temps, Satan a eu peur. Satan est tombé à la renverse. Depuis ce jour, Satan ne l'a plus jamais touché encore. Parce que Dieu le gars là, c'est pas que Satan ne peut pas l'attaquer, hein? Parce que dans la maison de Pharaon, il y avait beaucoup de sorciers. Eux tous adoraient les fétiches. Satan aurait pu encore bénir une attaque. Mais il a dit ce gars, plus vous l'enfoncez, plus il devient grand. Si le premier ministre, que tu vas encore l'enfoncer, s'il sort, il va devenir quoi? Alléluia! Donc Satan dit, où il a le niveau qu'il atteint là, c'est bon comme ça. Et vous voyez, la vie de Joseph a été tranquille jusqu'à la fin. Plus un démon n'est apparu. Le diable a eu peur d'un individu pareil. Parce que plus vous l'enfoncez, plus il ressort grand. Plus tu lui fais du mal, plus il brille. Plus tu lui donnes une mauvaise réputation, il sort de ta mauvaise réputation et il fait paraître une réputation encore meilleure. Ils sont toujours des situations. Mais je vous assure qu'il y a des gens comme ça. Et tu es là dans ce lieu, tu vois, Dieu parle sur ta vie. Je sais qu'en ce moment, je parle à quelqu'un qui est en train d'être enfoncé. Les sorciers sont acharnés, on t'enfonce. Tout ce que tu touches est bloqué. Vous savez, quelqu'un où les démons s'acharnent comme ça, c'est que tu es dangereux. Tu es dangereux. Vous voyez, Joseph, c'était un petit ballon. Il était en train de vaguer sur l'eau avec son papa. Ça, là, c'est énervé le diable. Il dit, l'enfant d'André, il a des rêves. Hein. Tuons-le. Il l'a mis dans un petit trou. L'enfant est devenu chef de la maison de Potiphar. Il dit, ah bon? Je vais le mettre dans un gros trou. En prison, là. Il n'y avait pas les droits de l'homme. Personne ne pouvait. Imaginez, en prison, en Égypte, à cette époque-là. Même à la Maca, même si tu rentres, même c'est un problème. Malgré que la Lido existe, tous ces groupes existent. Autant de pharaons. Mais même là où il n'y a plus d'espoir, Dieu va faire la différence. Dieu va faire la différence. Alléluia. La Bible dit que la bénédiction de l'Éternel accompagnait Joseph. Et c'est cette porte-là que nous sommes en train d'ouvrir. La bénédiction, pas l'air, c'est là. C'est une faveur. Elle ne dit pas que tu n'as pas d'épreuve, mais elle dit quand bien même les gens t'enfonceront, tu t'en sortiras. Et chaque fois que les gens seront contre toi, tu sortiras encore plus. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Alléluia. Regardez la vie de David. Il avait aussi la bénédiction dans sa vie. Beaucoup d'hommes de Dieu ont eu la bénédiction dans leur vie. Alléluia. Deutéronome chapitre 11, versets 26 à 27, le Seigneur dit, voici, je mets aujourd'hui devant toi, je mets aujourd'hui devant vous la bénédiction et la malédiction. La bénédiction si vous obéissez au commandement de l'Éternel, votre Dieu, que je vous prescris en ce jour. Mais il y a quand même quelque chose qui peut être dramatique, même pour les ballons qu'on a bien gonflés. J'ai vu des personnes qui sont bien. Le diable les a enfoncés dans les profondeurs. Alléluia. Quand ils arrivent au fond, eux-mêmes ils sont découragés. Au lieu d'attendre un peu, le diable va laisser pour qu'ils remontent. Eux-mêmes ils prennent aiguille. Il dit là, c'est bon maintenant, il faut un suicide spirituel. Il dit c'est bon. Donc dans les profondeurs de l'eau, ils prennent un couteau et puis ils percent le ballon. Ils sont les gens qui rétrogradent dans les trous. Alléluia. Le diable t'enfonce, tu arrives dans le fond là et puis toi-même tu te suicides. Tu n'attends pas le temps où Dieu va te relever. Amen. Joseph est resté fidèle dans la prison. C'est-à-dire le ballon est resté gonflé. Parce que si le ballon se perce dans le fond de l'eau là. Amen. Alléluia. Il ne faut pas se suicider. Amen. La bénédiction de l'Éternel. Il dit, j'ordonnerai à la bénédiction d'être avec toi dans toutes tes entreprises, dans tout ce que tu feras. La bénédiction va rester avec toi. Cette bénédiction-là a cette particularité, c'est que c'est une bénédiction qui demeure dans votre vie. C'est une bénédiction qui reste. C'est une bénédiction qu'il faut chercher. Alors, comment
déclencher cette faveur dans votre vie. Je vais rappeler un passage que j'ai beaucoup lu ces temps-ci. Je ne le lirai pas entièrement. Je vais juste commenter. Je vais lire une partie, je vais commenter. Mais je l'ai beaucoup lu ces temps-ci. C'est dans Deutéronome chapitre 27. Amen. Parce que pour voir cette faveur de Dieu se manifester dans votre vie, il y a des principes qu'il vous faut. Par exemple, savoir les choses qui ont de la valeur devant Dieu. Amen. Je vais vous expliquer dans la suite de mon propos que cette bénédiction-là ne vient que parce que vous provoquez Dieu. Provoquez Dieu favorablement. Vous provoquez l'Éternel et vous amenez Dieu à prononcer une parole de faveur dans votre vie. Dans Genèse chapitre 27, la Bible parle de Isaac, le fils donc d'Abraham, qui devenait vieux et qui s'apprêtait à partir et qui allait laisser la bénédiction qu'il avait reçue d'Abraham dans sa vie, qu'elle allait la laisser maintenant, qu'elle allait la déverser dans la vie d'un de ses enfants. La Bible dit Isaac, verset 1, Isaac devenait vieux et ses yeux s'étaient affaiblis au point qu'il ne voyait plus. Alors il appela Esaü, son fils aîné, et lui dit, mon fils. Il lui répondit, me voici. Isaac dit, voici donc, je suis vieux, je ne connais pas le jour de ma mort. Maintenant donc, je te prie, prends tes armes, ton carquois et ton arc, va dans les champs et chasse-moi du gibier. Fais-moi un mets comme j'aime et apporte-le-moi à manger afin que mon âme te bénisse avant que je ne meure. Rebecca écouta ce que Isaac disait à Esaü, son fils, et Esaü s'en alla dans le champ pour chasser du gibier et pour le rapporter. Verset 15. Ensuite, Rebecca prit les vêtements d'Esaü, son fils aîné, les plus beaux qui se trouvaient à la maison, et elle les fit mettre à Jacob, son fils cadet. Elle couvrit ses mains de la peau des chevreaux, et son cou était sans poil. Et elle plaça dans la main de Jacob, son fils, le mets et le pain qu'elle avait préparé. Il vint vers son père et dit, mon père, et Isaac dit, me voici, qui es-tu mon fils? Jacob répondit à son père, je suis Esaü, ton fils aîné, j'ai fait ce que tu m'as dit, lève-toi, je te prie, assieds-toi, mange de mon gibier, afin que ton âme me bénisse. Je veux que vous notez bien cette notion de l'âme qui doit bénir. Que ton âme me bénisse, notez bien cela. Isaac dit à son fils, et quoi, tu as déjà trouvé mon fils? Et Jacob répondit, c'est que l'Éternel ton Dieu l'a fait venir devant moi. Isaac dit à Jacob, approche donc, et que je te touche mon fils, pour savoir si tu es mon fils Esaü ou non. Jacob s'approcha, Isaac son père qui le toucha et dit, la voix est la voix de Jacob, mais les mains sont les mains d'Esaü. Il ne le reconnut pas parce que ses mains étaient velues comme les mains d'Esaü, son frère, et il le bénit. Il dit, c'est toi qui es mon fils Esaü. Jacob répondit, c'est moi. Isaac dit, serre-moi et que je mange du gibier de mon fils, afin que mon âme te bénisse. Jacob le servit et il mangea. Il lui apporta aussi du vin et il but. Alléluia. Je dis, ici on a deux fils qui vont hériter d'un père. Mais on voit Jacob et Esaü, les fils de Isaac. Isaac, c'est le fils d'Abraham. Les deux fils ici, qui ne sont pas en train de se battre pour l'héritage de leur père. Pourtant, Isaac est extraordinairement riche. Les expressions qui sont données pour parler de la richesse d'Isaac sont même supérieures à celles qui sont données pour la richesse d'Abraham. Donc Isaac était plus riche que son père Abraham. Alléluia. Et il devait partager. On voit ici que ses enfants ne luttent pas pour l'argent de leur père, pour l'héritage matériel, mais lutte pour une parole. Et je vous l'ai dit la dernière fois, la bénédiction, c'est une parole. Et ici, c'était la bénédiction. Il doit prendre la bénédiction de son père. Et cette bénédiction-là, donc, comme je l'ai dit, donc, c'est une parole que Dieu prononce dans la vie d'une personne. C'était pas une parole qui dépendait de Isaac lui-même, parce qu'elle était une prophétie. Après, quand Esaü va venir, Isaac ne pourra pas le bénir. Il va dire, ah, la bénédiction est finie. Amen. Alléluia. Vous convenez avec moi que si c'est juste une parole simplement à prononcer, ça ne peut pas finir. Mais il dit, la bénédiction est finie. Parce que c'est une prophétie. Et avait-il besoin de dire à son fils, Esaü, va chercher un mets pour que je te bénisse? Non. S'il avait envie de la bénédiction habituelle, s'il voulait simplement le prononcer, il n'avait qu'à l'attraper et puis prier pour lui, je te bénis. Mais il avait besoin que son âme soit dans la joie. Isaac recherchait quelque chose qui allait provoquer son âme. Dis avec moi, provoquer. Touche ton voisin, provoque-le. Alléluia. Provoque ton voisin. Bon, moi je vous apprends comment on provoque Dieu, quoi. Amen. Il faut provoquer. Il y a des gens, en fait, pour avoir la bénédiction, il faut provoquer Dieu. C'est-à-dire, Dieu est assis tranquillement dans le ciel. Il ne parle pas à quelqu'un. Et puis tu arrives. Et puis tu le provoques. Tu le provoques. Quand tu l'as provoqué, tu l'as bien chatouillé. À un moment donné, j'ai dit, mon fils, arrête, ce que tu fais là. Tu veux me toucher là. Tu veux me toucher. puis en même temps ça sort. Bah! La parole est sortie. Quand on a dit la bénédiction, le film est fini. On ne peut plus rien faire.
Alléluia!
Lorsqu'elle est prononcée dans la vie d'une personne, le problème c'est que Dieu la prononce très rarement.
Amen.
Mais il faut la déclencher.
Jacob et Ésaü connaissaient le truc.
C'est pourquoi les deux se sont battus pour la parole. Ils ne sont pas battus pour l'argent. Ils ne sont pas battus pour les chameaux de papa. Ils ne sont pas battus pour les ânes de papa. Ils ne sont pas battus pour les terres qu'il avait. Parce qu'ils savaient que ce n'était pas ce qui était important.
C'est la bénédiction qui est importante. Parce que s'ils l'ont,
tout réussit.
Vous savez, quand elle est dans votre vie,
les gens viennent vous voler même. Ça nous fait pas mal. Parce que tu sais que ce n'est pas l'argent là. C'est ce qui est en poids là, qui crée l'argent. Donc si quelqu'un vient te voler, c'est pourquoi la Bible dit, si quelqu'un vient prendre votre tunique, donnez-lui encore votre manteau. Est-ce que ce n'est pas important? Ça va revenir.
Alléluia.
En fait, toi-même, tu crées la faveur.
Amen.
Alléluia. C'est ça la bénédiction. Et Ésaü et Jacob avaient compris que maintenant leur père, tout ce qu'ils touchaient était béni. C'est ce dont ils avaient besoin. Ils n'avaient pas besoin de ce que la bénédiction lui avait donné d'acquérir. Ils avaient besoin du moteur qui était en lui, qui créait chaque fois la faveur dans tout ce qu'il touchait. C'est ce qu'il recherchait.
Pas le résultat de la bénédiction,
mais il voulait le moteur même, la bénédiction même. Et je vous pose encore la question. Si Dieu vient vous proposer 30 milliards à gauche, et puis la bénédiction à droite. 30 milliards. Milliards. 30. Pas millions, hein. Milliards, milliards. Et puis, on dit
la bénédiction.
On dit choisis. Choisis. Non, disons la vérité entre nous.
Soyons sérieux, on dit quoi?
Vous savez, moi, je vous enseigne la parole de Dieu, hein. Parce qu'il y a des moments où vous aurez à faire des choix. Amen. Vous aurez à faire des choix. Vous allez voir que le diable va vous proposer l'argent. Et puis vous voyez, ça va arriver.
Le diable va vous proposer la prospérité.
Et puis vous savez que ce qu'il vous propose va vous corrompre.
Et à droite, vous avez la bénédiction que vous recherchez.
Ce que vous dites aujourd'hui, appliquez ça. Ne parlez pas seulement en parole.
Alléluia.
Bon, il y en a qui n'ont pas répondu. Vous voyez, même ils savent que... Si on a mis 30 milliards et puis bénédiction, ils vont regarder, ils vont dire, mais Dieu, 30 milliards à la main, ça te fait quoi? Si je prends ça, je vais prendre l'offrande, on va faire avancer le règne de Dieu.
Alléluia. Hein, 30 milliards, mais le monde va bouger, Seigneur, regarde, Père, est-ce que tu comprends 30 milliards ce que c'est?
Dieu dit, mon fils, il faut choisir seulement. Il dit, non, mais tu comprends 30 milliards, Seigneur. Regarde, les églises sont pauvres. Les pasteurs ne savent pas comment ils vont faire.
Oh, on a envie d'aller évangéliser, on ne peut pas.
Avec 30 milliards, Seigneur, 30 milliards. Regarde, Pasteur Sanogo. Chaque fois, il dit, envoyez l'argent avant la mission. Si j'ai les 30 milliards, Seigneur. 30 milliards.
La dîme seulement, c'est 3 milliards. Je fais ça à l'église. On cherche un endroit construit. Mais... 30 milliards. Alléluia.
Quand bien même cela vous sera proposé, mes frères, choisissez la bénédiction. Car la Bible dit,
la vie d'un homme
ne dépend pas de ses biens, fût-il dans l'abondance. La vie d'un homme
ne dépend pas de ses biens,
fût-il dans l'abondance.
Nous connaissons des hommes qui avaient des milliards.
Mais qui, dont les enfants sont dans la drogue, dans la débauche, dans les...
Ils sont malheureux
malgré tout l'or du monde qu'ils ont.
Alléluia.
Mais la bénédiction te donne de jouir des choses que tu mettras dans ta vie. Bon, honnêtement, 30 milliards de bénédiction, tu prends quoi?
Tu choisis quoi?
Bénédiction.
Tu choisis quoi?
Bénédiction.
Amen. Non, il faut prendre la bénédiction. Alléluia.
Et c'est ce que Ésaü et Jacob ont compris. Quand Jacob est parti de son père,
il est parti sans rien. Mais il avait la bénédiction. Il avait la bénédiction.
L'argent, les terres sont restés dans la main d'Ésaü.
Et Jacob, même Ésaü a compris que n'est pas ce qu'il avait là qui était important. Que c'est son frère qui était parti avec ce qui était important. La bénédiction l'accompagnait. Il était chez Laban, il prospérait. Tu le mets dans un trou, il sort. Laban veut l'escroquer. Jacob devient plus riche encore. Il dit, je vais le doubler ce petit-là. Vous savez, Laban voulait doubler Jacob. Mais il ne sait pas que le petit-là, il y a la bénédiction. Il vient. D'abord, même c'est vrai, en temps normal, Jacob même c'est un doubleur. Donc si c'est pour se doubler, là, il allait montrer quelque chose à son oncle. Parce que Laban, c'est le frère de sa maman. Laban est le frère de Rebecca. Mais il arrive chez son oncle veut le. À la fin, Jacob lui a montré un petit truc et puis il est parti. Il y a longtemps, mon propre frère. Alléluia. Alléluia. Mais Jacob avait la bénédiction sur lui. La bénédiction. Il arrive chez Laban. Il arrive sans rien chez Laban. Et Jacob savait, Jacob n'a même pas demandé un salaire. Il dit, tout ce que je veux, oncle, je veux marier Rachel. Laban s'était rendu compte que tout ce que Jacob touchait était béni. Il va commencer à l'établir. Il va dire, quoi? Ce jeune-là, il a une faveur dans sa vie. Vous savez, et souvent les gens font comme ça. Quand ils voient la faveur de Dieu dans votre vie, les gens vous embauchent. Les gens veulent travailler avec vous. Mais ils ont peur que vous soyez élevés. Quand il y a les bonnes réunions où il y a les grandes décisions, là, il ne veut pas que vous venez. Il dit, fais le rapport. Fais le rapport, écris bien le dossier. Ils prennent votre dossier. Il dit, c'est moi qui ai fait ça, c'est moi qui ai fait ça. Laissez-le. C'est ce que Laban faisait à Jacob. Regardez, vous produisez, vous travaillez. Et puis quand tu vois même le patron, même, il prend ça. Oui, c'est mon dossier. Nous avons travaillé. Et voilà. Il ne veut pas t'élever parce qu'il ne veut pas que tu sois à la table des directeurs. Parce que si les gens t'écoutent, lui, il dit, vous voyez ça? Et on fait tout pour que tu sois derrière. Il ne veut pas te renvoyer pour que tu écrives les bonnes choses, pour que tu montes les bons dossiers. C'est ce que Laban voulait faire avec Jacob. Mais Jacob avait dans sa vie la bénédiction. Il dit, je veux marier Rachel. Son père l'abandonne 7 ans. Quand les 7 ans sont arrivés, au lieu que ce soit Rachel qui soit mariée, on lui envoie Léa. Il a Léa. Et c'est maintenant Laban va lui expliquer. Il dit, chez nous, là, on ne marie pas la petite soeur. Le gars a travaillé pendant 7 ans pour Rachel. À la fin du film, il lui dit, chez nous, on ne marie pas la petite soeur avant la grande soeur. Donc, si tu veux marier la petite soeur, il faut que tu travailles 7 années encore. Il dit, ah! Le gars dit, bon, comme je te fais souffrir, je te la donne quand même. Prends Rachel. Il sait que tu dois travailler avec moi 7 ans encore. Il dit, ok. Amen. Mais à la fin, parce que la bénédiction était sur lui, tout ce que cet homme faisait pour escroquer Jacob, c'est retourner contre Laban. Et Jacob a quitté chez Laban extraordinairement riche. Alléluia! Il est sorti de la maison d'un escroc avec tous les biens de l'escroc. C'est-à-dire, l'escroc même le regarde et puis il ne comprend pas. Alléluia! Dis avec moi, la bénédiction. La bénédiction. La bénédiction. Frère, c'est ce que tu dois avoir. Il faut laisser l'argent. Là, que Dieu parle dans ta vie. La parole, ça n'a qu'à venir. Quel que soit ce que les gens essaieront de faire contre ta vie, tu verras. Ça va toujours se transformer en ta faveur. Toujours. Toujours. Les choses vont concourir à ton propre bonheur. Les choses vont tourner. À un moment, tu as l'impression que tu es en train de perdre. Ça veut dire que le diable est en train de t'enfoncer. Il t'enfonce. Dès qu'il relâche un moment, tu ressors et tu es encore plus puissant que jamais. Donc, quand c'est comme ça, à un moment donné, Satan même te respecte. Il dit, ce gars-là, il ne faut pas le toucher. Plus vous l'agressez, plus il est dangereux. Alléluia. Mais qu'est-ce que Isaac a eu pour prononcer la parole? C'est pas qu'Isaac ne voulait pas bénir. Il voulait bénir Esaü. Mais il dit, il faut que tu fasses quelque chose que j'aime. Il dit, quand je vais manger, mon âme va se réjouir et je pourrai te bénir. Ce n'était pas une bénédiction qui venait de la volonté, du choix de l'individu. Il ne s'agissait pas d'attraper son fils et puis de prononcer dans sa vie des paroles. Non, il s'agissait qu'il soit provoqué. Provoqué par quelque chose. L'attitude qu'il a eue, parce que la parole qu'il a prononcée est une prophétie de Dieu.
En fait, c'est Dieu qui a été provoqué. Amen. Et Dieu est en train de nous expliquer un principe. Lorsque l'âme de Dieu arrive à se réjouir sur quelqu'un, il ouvre dans sa vie la sixième bénédiction. Qui a vraiment provoqué Dieu? Provoquer Dieu. Alléluia. Pour que, regardez ce qu'il a dit, Isaac a dit à Esaü. Il dit, va me préparer le mets que j'aime. Pour que Esaü arrive à préparer le mets qu'il aime. Ou bien que Rebecca arrive à faire le même mets. Ça veut dire qu'il le connaissait. Parce qu'il n'a pas donné le menu, il n'a pas donné la recette. Les gens savaient. Vous ne pouvez pas trouver, vous ne pouvez pas toucher le cœur de Dieu si vous ne le connaissez pas. Pour savoir ce qui lui fait plaisir. Vous comprenez? Et puis réagir en conséquence. Alléluia. C'est un premier principe qu'il faut savoir. Vous ne pouvez apporter les choses qui touchent le cœur de Dieu sans l'avoir connu auparavant. Sinon, vous allez faire un cadeau dans le désordre, dans le hasard, comme ça, c'est pas bon. Amen. Il y a beaucoup de cadeaux et tous les cadeaux font quand même plaisir. Bon, il y a des cadeaux même qui ne font pas plaisir, hein. Mais tous les cadeaux, bon, ça donne un petit sourire quand même. C'est comme si, bon, je ne suis pas contre, mais si tu viens comme ça, tu viens me voir. Je dis, pasteur, un cadeau, tiens, une fleur. Je vais sourire, c'est gentil. Mais demain, je vais oublier. Amen. Par contre, il y a des personnes, surtout les femmes, elles aiment tellement les fleurs. Vous suivez? Pour pouvoir apporter quelque chose que l'âme, le cœur aime. Et là, nous parlons de Dieu. Il faut toucher. Pour le faire, il faut connaître Dieu. Il faut connaître les sensibilités de Dieu. Il faut connaître les goûts de Dieu. Alléluia. Deuxième élément, c'est que c'est toujours et c'est très souvent quelque chose d'original. Ça veut dire que ça n'a même pas été toujours fait. Très souvent, c'est quelque chose d'unique qu'on n'a jamais fait. Vous me suivez? Amen. Je prends par exemple un frère, tu arrives. Et puis, tu aimes les beaux costumes. Donc, tout le monde sait que tu aimes les beaux costumes. Le premier qui vient t'offrir va te réjouir beaucoup plus. Si quelqu'un vient te donner la même chose le lendemain, tu seras un peu plus content. Plus on va t'en donner, moins ça va te réjouir. Vous me comprenez? Alléluia! Ce que je suis en train de vouloir vous dire, c'est que très souvent, le cadeau que vous allez apporter à Dieu qui va déclencher la sixième bénédiction, est quelque chose que les autres n'ont jamais fait. Vous êtes original. Alléluia. Il y a des choses que Dieu aime, que vous seul êtes capable d'apporter. Ce qu'il faut trouver, c'est que quelle est votre intimité avec Dieu qui va... Qu'est-ce que Dieu va trouver en vous? Vous allez trouver en vous qui va répondre à un besoin qui va réjouir le cœur de Dieu. Est-ce que vous me suivez? Alléluia. Alléluia. Le cadeau ne peut venir que d'une connaissance de Dieu. Deuxièmement, c'est quelque chose d'original. Quelque chose que les autres n'ont pas l'habitude de faire. Quelque chose qu'on n'a jamais fait. Ou à la limite qu'on a fait très rarement. Amen. Parce que votre meilleur repas, si vous le mangez tous les jours, ce ne sera plus votre meilleur repas. Ton plat préféré, la tenue que tu préfères la plus, si tu la portes tous les jours, tu vas la préférer de moins en moins. Vrai ou faux? Alléluia. Alléluia. Amen. Et je lis donc cela, cet enseignement-là, donc, à la clé de David. La clé de David, c'est justement cette capacité-là, cette attitude que David a manifestée dans sa vie, à amener vers l'Éternel des choses originales. La clé de David est un peu plus longue que de faire simplement de faire un cadeau. Il y a d'autres choses, il y a d'autres principes. Mais c'est cette capacité-là qu'a l'homme de déclencher certaines faveurs dans la vie de Dieu. Amen. Un autre élément encore que je n'ai pas cité en ce qui concerne la particularité de ces cadeaux, c'est que Dieu ne peut pas vous les révéler. Suivez-moi très bien. Le cadeau, là, ce qui provoque Dieu, Dieu ne va pas vous donner la révélation de ce qu'il veut. Lui-même. Il ne va pas te dire, par exemple, ma fille, demain, envoie-moi tout, va vider ton compte et amène-moi tout ton argent. Là, un bon serviteur de Dieu obéissant va le faire. Amen. Mais très souvent, l'offrande qui réjouit le cœur de Dieu ne vous sera pas donnée par révélation en songe. ou par un prophète. Ainsi parle l'Éternel. Ainsi parle l'Éternel. Fais une offrande qui va toucher mon cœur. On dit combien? Oui, 5 millions, 7 millions. Là, tout bon chrétien, par obéissance à son Seigneur, a dit, oui, Seigneur, je t'obéis. Convenez avec moi. Si vous êtes un chef, vous êtes un patron, que vous avez une entreprise, vous pouvez dire à un de vos employés, bon, les gars, vous savez, moi, j'aime Mercedes classe M. Donc, toi, je connais ton salaire. Offre-moi la Mercedes classe M. Tu sais que si tu n'as pas offert à ce patron, il va te renvoyer. Donc, tu vas et tu viens tout en souriant. Patron, voici votre Mercedes classe M. Il dit merci, point infidèle, serviteur. C'est bon, hein? Tu as respecté ton patron, c'est très bon. Mais ce n'est pas ça qui déclenche la bénédiction. Ce genre de cadeau. Amen. C'est celui-là simplement qui est avec le patron et qui remarque le patron, qui aime beaucoup le patron, qui écoute beaucoup le patron. Et puis un jour, chaque fois que par exemple la voiture passe, j'aime bien cette place, elle me plaît. Juste l'exprimer. Mais pendant qu'il parlait, vous avez écouté. Sans qu'il vous demande. Un jour, il se lève, le jour de son anniversaire. Patron, j'ai un cadeau pour vous. Il dit, qu'est-ce que c'est? Sa voiture de rêve. Dites-moi, un patron comme ça, est-ce qu'il peut vous renvoyer? Dites-moi, un patron comme ça, est-ce que sa faveur ne va pas vous accompagner? Oui. Alléluia. Alléluia. Qu'est-ce qui fait le plus plaisir dans les deux cadeaux? C'est celui qui vient de manière originale. C'est celui qui vient sans que vous ayez demandé. Le cadeau qui réjouit le cœur de Dieu, c'est celui-là qui vient sans que Dieu vous l'ait dit. Faites-moi tel don. Faites-moi tel don. C'est vous-même qui l'observez, qui le regardez. Et qui dit, papa, il aime ça. Amen. Papa, il aime ça. Moi, je vais faire ça pour lui. C'est quelque chose de ce genre-là. Si tu suis fait comme ça. En plus de l'enseignement que j'ai donné mardi dernier, ceux qui n'étaient pas mardi dernier au siège, payez les CD. Hein. Parce que vous n'allez pas comprendre la clé de David. Amen. J'ai parlé du principe de bon, agréable, parfait. Voilà. C'est très important à savoir. Parce que le cadeau doit rejouer le cœur de Dieu. Dieu va prononcer une parole dans votre vie. Je me suis basé sur le passage de Jean chapitre 8, verset 29, où Jésus dit, mon Père est avec moi, il ne m'a pas laissé seul. Parce que je fais toujours ce qui lui est agréable. Jésus dit, Jean 8, 29, que Dieu est toujours avec lui, pas parce qu'il est le Fils de Dieu, pas parce qu'il a été choisi avant la fondation du monde, parce qu'il fait tous les jours ce qui fait plaisir au cœur de Dieu. Amen. Quand vous touchez, quand quelqu'un prend du plaisir à être avec vous, quand vous réjouissez le cœur d'une personne, vous savez mes amis, on est chrétiens, hein? On est tous sauvés, mais il y a des enfants de Dieu qui se distinguent. Ils ont une manière d'aimer Dieu. Il faut que Dieu s'attache à eux. Vous voyez, non? Dieu nous a tous aimés. Il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse pas. Nous tous, on a cru en ce passage et on vient à l'église. Mais parmi nous, il y en a qui sont en train de se distinguer. Ils sont dans leur coin simplement. Et chaque jour, ils font plaisir à papa. Et j'ai expliqué à cet enseignement le mardi dernier. Je dis, ceux qui ne vous font pas plaisir, ça peut être des amis, hein, ça peut être des camarades. Mais un camarade dont la présence avec vous ne vous réjouit pas. Particulièrement, ce n'est pas toujours que vous serez avec lui. Quelqu'un avec qui vous prenez du plaisir, vous aimez à être avec elle. Alléluia. Alléluia. Mes amis, je veux que vous déclenchiez la bénédiction de Dieu dans votre vie. La bénédiction. Cette faveur-là qui fait que Dieu est constamment dans votre vie. Cette faveur-là qui fait que Dieu est avec vous. Regardez ce que David a fait pour qu'on parle de la clé de David. La clé de David, il est question de cela où? On va bientôt terminer. Apocalypse chapitre 3, verset 7. Apocalypse chapitre 3, verset 7. Il est dit, écrit à l'ange de l'église de Philadelphie, voici ce que dit le Saint, le véritable, celui qui a la clé de David, celui qui ouvre, personne ne fermera, celui qui ferme et personne n'ouvrira. Amen. Ésaïe chapitre 22, verset 22, parle encore de cette fameuse clé de David dont je suis en train de vous parler. Ésaïe 22, 22, Dieu dit, je mettrai sur son épaule la clé de la maison de David. Quand il ouvrira, nul ne fermera. Et quand il fermera, nul n'ouvrira. Cette clé-là a la particularité, lorsqu'elle ouvre une porte, on ne peut plus la fermer. Lorsqu'elle ferme une porte, on ne peut plus l'ouvrir. Moi, je crois que c'est la clé des clés. Amen. C'est la clé des clés. C'est elle qui ouvre toutes les portes. Et Dieu la donne seulement à quelqu'un à qui il a vraiment confiance, à son ami.
à ses amis, à des gens qui savent lui faire plaisir. Alléluia. Et tu peux toucher le cœur de Dieu. Ce n'est pas quelque chose de compliqué. Amen. David l'a manifesté par exemple. Pourquoi? David a fait trop de trucs pour toucher le cœur de Dieu. Trop de choses. La majorité des actes que David a posés dans sa vie ne lui ont pas été révélés par prophétie. C'est lui-même qui s'est réveillé un matin et puis Dieu s'en faisait ça pour Dieu. Et c'est pour ça que Dieu lui a donné un nom. Regardez, la Bible parle de la clé de la maison de David. Si vous lisez le livre des Chroniques, vous allez voir le jour où Dieu lui a donné en fait cette clé. David était couché chez lui. Il dit, mais hein, moi je dors dans une maison de cèdre et l'Éternel est sous une tente. Je dors dans le luxe et l'arche de l'Éternel est sous une tente. Il dit, c'est pas possible. Il a décidé de construire un temple à l'Éternel. Et le prophète, il a appelé le prophète Nathan. Il dit, voilà ce que je vais faire pour Dieu. Nathan dit, fais l'Éternel avec toi. Quand Nathan est parti, il a reçu la prophétie selon laquelle c'est pas lui David qui allait le faire, mais c'est son fils. David a mis de l'argent à l'écart. Et voilà ce que Nathan m'a dit. Il dit, ah, je ne t'ai rien demandé. Est-ce que je t'ai demandé quelque chose? Mais sans que je ne te le demande, tu as voulu le faire. Cette idée de David-là a trop touché le cœur de Dieu. Et voilà ce que Dieu va dire. Dieu a dit à David, je te bâtirai une maison. C'est de là que vient la clé de la maison de David. C'est à partir de cet acte-là que Dieu a prononcé la parole. Et c'est pour cela que Jésus-Christ est venu de David. David est quelqu'un qui a tellement provoqué Dieu. Vous savez, Jésus là, ce n'était pas dit dans l'Ancien Testament qu'il allait descendre de David. Hein. Ce n'était pas prévu dans le film. Ce qui est sûr, c'est un descendant d'Abraham. On n'a pas dit de qui. Donc dans toutes les tribus, David s'est tellement distingué que Dieu dit, hé David, moi je te connais mon fils. David a provoqué ça, ce n'était pas une prophétie. David a provoqué le fait que Jésus-Christ soit le fils de David. Jésus même ne dit pas dans sa parole, je suis fils d'Abraham. Hein. Jésus dit, je suis fils de David. Jésus-Christ, fils de David. Cet homme-là a impressionné Dieu à tous les niveaux. Ce n'est pas parce qu'il était juste, non. Mais c'est parce qu'il savait déranger Dieu. Lui, ce n'est pas ainsi par l'Éternel, comme Moïse est arrivé quelque part, on lui a donné tout l'ensemble du commandement. Voilà comment il faut prier. Quand tu pries, non. Tu dois bouger comme ça, tu dois te réveiller le matin. Dieu ne lui a rien dit. Lui-même, son culte est venu à cause d'adorer l'Éternel. C'est David qui a créé ce qu'on appelle le tabernacle de David. C'est une tente qu'on appelle la tente de David. C'est dans une question dans le livre de Actes des Apôtres, chapitre 15. Dieu dit dans les derniers, verset 16, Dieu dit dans les derniers temps, je vais relever la tente de David. Et le reste des hommes entendra parler. David a provoqué Dieu. Et cette clé-là, Dieu a prononcé une parole. On ne peut plus jamais la fermer. Malgré l'attitude des fils de David, ils sont toujours restés rois. Pourquoi? La porte a été ouverte, on n'a jamais pu la fermer. On n'a plus jamais pu la refermer. Dis avec moi, clé de David. Clé de David. Dans la parole de Dieu, David n'est pas le seul qui a pu ouvrir cela. Il y en a encore d'autres. Je parlerai encore de cette femme-là qui a offert le parfum. Ah, je l'aime tellement. La Bible dit qu'elle était une femme pécheresse. Elle est arrivée. Le parfum qu'elle a offert, comme je le dis souvent, c'est un parfum de nard pur. Les apôtres disent qu'on aurait pu vendre ce parfum 300 deniers. 300 deniers, c'est le salaire d'un ouvrier pendant une année. Imaginez-vous votre salaire. On cumule pendant un an et puis on achète un parfum. Ton salaire, pas un mois, hein. Une année de salaire, 12 mois. On regroupe. On achète un parfum. Il était dans une boîte spéciale. C'était le parfum des grands rois. Grands rois. C'était quelque chose d'extraordinaire. À cause de l'endroit où on le trouvait, il était très difficile à trouver, très rare. Il se trouvait à une altitude très élevée dans le mont Himalaya. Et la boîte dans laquelle il était mis était particulière. Cette femme-là a pris ce parfum. Quand elle est arrivée à regarder Jésus, elle dit, ça, si on offre ça au roi, lui, il est plus que les rois. La femme n'a pas offert le parfum à Jésus. Ce parfum, même si elle offrait ça à Jésus, là, les apôtres l'être là, les Judas, là, parce que Judas connaissait le parfum. Judas lui dit, oh Jésus, là tu es béni, là. Tu connais le parfum, là? Ah, c'est le parfum des Pilates. Ah, c'est le parfum des Césars. Mais Judas ne connaissait pas qui était le Christ. Les apôtres marchaient avec Jésus. Mais il n'avait pas eu la révélation. Cette femme-là a eu plus. Ah. Elle a eu une révélation que les autres apôtres n'ont pas eue. Elle a observé. Il dit, mais celui-là, il n'est pas un roi.
il est le roi des rois. Le monsieur marche dans la ville, mais quand il arrive, il dit qu'il est le roi des rois. Si au roi, on offre un parfum de nard, lui, on ne peut pas le lui offrir. C'est le maître au rang des rois. Si je lui offre le parfum, là, c'est comme si je le mets au même rang que César. Elle arrive, elle casse, et puis elle verse à ses pieds. Les gens étaient choqués. Judas était assis, il tremblait comme ça, parce qu'il voit l'argent qui s'en va. Il voit l'argent. La... 300 deniers. Judas était choqué. L'argent était gaspillé. Parce que quand on verse, on ne peut plus ramasser. Au moins, le parfum, là, si Jésus gardait, de temps en temps, il peut mettre là sur lui. Mais on a cassé. La femme n'était pas prévue dans le calcul de Dieu. La Bible n'avait pas mentionné son nom. Aucune prophétie n'était donnée sur elle. Cette femme-là a fait graver son nom pour toujours dans les Écritures. Quand Jésus était trop provoqué, Jésus lui a dit, qu'est-ce qui se passe? Quoi? Et puis la femme n'a pas fini. Quand elle a fini ça, elle a commencé à pleurer. Pour Dieu, je suis trop pécheresse. Ses larmes, elle verse ça sur les pieds de Jésus. Elle prend ses cheveux. Jean-Baptiste avait la révélation de qui était le Christ. Il a dit cette parole. Je ne suis pas digne de délier les lacets de ses chaussures. Les autres qui marchaient avec lui, eux pensaient qu'ils étaient dignes. Si vous savez qui est Jésus, même si on te dit, viens embrasser en bas de son pied, cours avec joie. Il dit, Jean-Baptiste dit, on dit je suis grand, mais le monsieur que vous voyez là, je ne suis même pas qualifié. Ceux qui enlèvent le lacet de ses chaussures, quand il est au ciel, je ne fais même pas partie de ceux qui ont accès à lui. Ce n'est pas un langage d'humilité, il était en train de dire. Jean-Baptiste dit, la Bible dit, il n'y a pas un homme plus grand que lui. Jean-Baptiste dit, il dit, lui là, moi Jean-Baptiste, vous m'appelez grand prophète, non? Mais la dimension qu'il a, moi Jean-Baptiste, je ne suis même pas digne de ceux qui rentrent dans sa chambre pour lui délier les lacets des chaussures. Quand cette femme a vu ça, elle dit, mais quel parfum vous pouvez lui offrir? Quand elle a versé, avec cela, elle a essuyé les pieds de Jésus. Elle a provoqué. En même temps, quand les apôtres ont commencé à parler, Jésus a fermé leur bouche. Il disait, vous, vous ne savez même pas ce que vous dites. Et puis il dit, aussi longtemps qu'on parlera de moi, on parlera de cette femme. Alléluia! Son nom ne devait pas être dans les Écritures. Elle était une femme pécheresse. Mais parce qu'elle a fait, elle n'était pas prévue dans le film. Elle est rentrée dans le film. Nous la connaissons. Elle est pour nous un modèle. Il y a des gens qui dérangent le ciel. Ils touchent l'âme de Dieu. Dieu est chatouillé jusqu'à... Et puis il dégage une parole. Qui ouvre une porte de génération en génération. Tu deviens béni. J'ordonnerai à la bénédiction d'être avec toi. Alléluia! Alléluia! Comment on peut déclencher ça? Posez-moi la question. Je veux dire qu'on provoque les faveurs. Isaac dit, je veux parler. Je veux bénir mon fils. Je veux bénir. Mais mon âme n'est pas encore trop contente. Il dit, va me provoquer. Provoque-moi. Donc quand il a mangé la nourriture, bon, c'était Jacob maintenant. Jacob est arrivé. Quand il a donné le mets, il a bu un peu de vin. Le vin, c'est le symbole de la joie. Il était dans la joie. Il dit, fils, maintenant, écoute. Papa va parler. Toutes les prophéties sont sorties. L'enfant est parti. Il était un milliardaire sans avoir l'argent dans sa poche. Il avait tous les biens du monde sans avoir rien avec lui. Juste la parole. Un seul mot et ta vie sera transformée. Alléluia. Quelques hommes dans la parole ont pu le provoquer. Et c'est ce que nous apprendrons. Comment est-ce qu'on déclenche? Amen. Alléluia. Amen. Oh, on va se tenir, on va prier le Seigneur. On va dire, Seigneur, apprends-nous à t'aimer. Oh, apprends-nous à ouvrir la porte de la sixième bénédiction. Donne-nous la clé de David. Prions pour que Dieu dispose nos cœurs. Ensemble, élevons nos voix et prions le Seigneur. Seigneur, nous voulons apprendre à te connaître. Nous voulons apprendre, Seigneur Dieu, à te contempler. Nous voulons apprendre à te connaître, Seigneur. Nous voulons apprendre à te voir. Nous voulons apprendre, Seigneur Dieu, à te connaître. Père éternel, parce que
Ma prière est que cette assemblée, cette église, cette communauté soit une communauté de gens qui posent des actes, Seigneur Dieu, pour qui te touche, Seigneur Dieu, véritablement. Tu nous as donné ces choses écrites afin que nous puissions apprendre, nous puissions lire entre les lignes, Seigneur Dieu, et savoir les actes que nous devons poser afin de te toucher. Seigneur, sache que nous t'aimons. Je prie afin qu'un tel esprit d'adoration, un tel esprit de connaissance, un tel esprit d'amour de Dieu soit répandu dans cette église. Et que Dieu suscite dans votre cœur les véritables adorateurs, des gens qui aiment le Seigneur au point de pouvoir faire ce que son cœur aime. Que Dieu vous bénisse.
Merci d'avoir suivi ce message et n'oubliez pas de mettre en pratique les conseils que vous avez reçus du Seigneur. You came